Des lois offices and he made it favorable on sa faillite, etc. Donc ça a fait une série de scandales et les sociaux-démocrates se sont trouvés en quelque sorte conseillés par l'électorat vers le pouvoir. Mais pour faire quelque chose. Et c'est là que ce fameux modèle nordique s'est mis en place. Il s'est mis en place aussi par le fait que le patronat lui-même s'est rendu compte que l'affrontement direct pouvait lui être particulièrement néfaste. C'est-à-dire que le fait que la RSP soit déconsidérée, que la droite conservatrice se trouve défiée depuis une quinzaine d'années, tout cela l'a amené à se dire, écoutez, la situation politique fait que on n'a pas tellement le choix. Par ailleurs, le risque communiste étant très limité, ça a aussi amené le patronat à se dire, bon, on peut travailler une espèce de gauche populaire, certes, mais pas tellement virulente. Et puis, les sociaux-démocrates ont également eu l'intuition qu'ils ne pouvaient réussir, en fait, à vaincre vraiment la droite en s'alliant aux paysans. Alors, les partis paysans, les partis agrariens n'étaient pas fondamentalement toujours des partis réactionnaires ou des partis de gros possédants. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même vous rendre compte que très souvent, ces partis paysans, surtout en Suède et en Norvège, et en Finlande aussi, voter avec la droite, y compris d'ailleurs la droite nationaliste. C'était donc des partis farouchement nationalistes et farouchement attachés aux intérêts des petits propriétaires. Et la social-démocratie a cherché, une fois parvenue au pouvoir par les urnes, elle a cherché une alliance parlementaire avec ses partis paysans. Et le compromis, c'est ça qu'a donné le modèle du Nordique, le compromis s'est fait dans les trois principaux États scandinaves, sur la base d'une alliance entre les sociaux-démocrates et les partis paysans. Alors le deal, c'était le suivant, vous nous protégez avec des droits élevés pour les produits agricoles, donc vous faites du protectionnisme pur et dur, vous nous garantissez la paix sociale, tout cet intérêt pour les accords de longue durée. Et, par contre, les sociaux-démocrates disaient, vous acceptez qu'on mette en place un certain nombre de pages sociaux, parce que la situation était devenue invivable, comme pour beaucoup de gens. Donc ces pages sociaux, c'était l'accès à une meilleure retraite, un peu plus jeune, pour essayer d'éponger les vieux chômeurs. C'était également l'aide aux familles, la garantie pour un certain nombre de chômeurs de pouvoir être secourus. Davantage qu'elle ne l'avait été avec les premières réformes du début des années 20. Et puis, ce compromis, vous le voyez, permettait de distribuer du pouvoir d'achat avec l'impôt, parce que les sociaux-démocrates mettaient ça dans la balance. Alors, vous voyez que les paysans n'étaient pas tellement contents, mais en même temps, voyant leurs revenus s'écrouler, pour eux, les plus gros frais n'étaient pas les frais de main-d'œuvre, donc les frais avec ce qu'on appelle les taxes sociales, mais c'était plutôt le fait que les prix s'écroulaient tout le temps. Donc avoir des prix suffisamment soutenus avec certes quelques améliorations salariales, etc., ne posait pas de problème fondamental aux paysans. Donc ils ont accepté ce compromis qui a duré en fait jusque dans les années 60-70, et quelquefois au-delà, mais de façon plus épisodique. Et le modèle nordique donc a pris forme dans les années 30. Mais c'était loin d'être quelque chose d'idéal. Et même les ouvriers n'étaient pas toujours très contents. Bien sûr, ils étaient contents de voir que désormais on pouvait avoir des allocations familiales, que le système de retraite s'améliorait de façon considérable, en particulier en Suède. Donc ça, c'était. Mais par exemple, dans un pays comme le Danemark, c'est pas un hasard si l'année 36, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été une des plus alertées sur le plan social, c'est qu'il y avait quand même des frustrations. Et la frustration essentielle, c'est que le deal passé avec le patronat, c'était des accords très longs, interdisant les grèves pendant 4 ou 5 ans, en contrepartie de quelques avantages sociaux et d'un maintien d'emploi éventuellement sans développement. Ce qui a sauvé aussi ce modèle nordique, c'est le fait que la reprise économique a été plus forte dans les pays du Nord en 1933. Et pour une raison très simple, c'est que les pays du Nord ont accepté de suivre les Britanniques dans la dévaluation de leur monnaie. C'est-à-dire que les trois couronnes et le marque finlandais ont accepté d'être diminués en 1931, ne se sont pas crispés comme en France ou en Italie ou ceux qui viennent en Belgique et au Luxembourg sur des politiques d'austérité. En fait, ils ont pratiqué le keynésianisme avant le keynésianisme et ces dévaluations compétitives leur ont permis en quelque sorte de relancer leurs exportations, donc de trouver des ressources supplémentaires. Mais ils ont profité à la fois de la conjoncture et profité du fait que le patronat était en partie désarmé et que les paysans avaient besoin d'eux. Et ça a fait leur grand succès. Alors attention, ça n'est que les prémices du modèle nordique. La Deuxième Guerre mondiale a arrêté ça. Bon, pour la Norvège et le Danemark, vous savez pourquoi, c'est que les Allemands ont des hommes envahis de 1940 et faire une sociale sous domination. Allemande, ce n'était pas très possible, en plus avec le blocus imposé par les Britanniques, etc. En Finlande également, les guerres successives contre l'URSS, la guerre d'hiver en 1939 sur l'attaque brutale des Staliniens, puis la guerre de continuation, alors là c'est les fachos finlandais qui se sont plus autorisés à faire la guerre en Finlande, bon peu importe. Tout cela a bloqué en fait le processus. D'autre part, ce processus n'est valable que pour les trois grands États scandinaves. En Finlande, il y a fallu attendre beaucoup plus longtemps. La droite et même l'extrême droite étant au pouvoir au début des années 30, c'est le fameux mouvement de la Voix qui interdit l'extrême gauche en Finlande, qui fait la chasse aux syndicalistes, etc. Il a fallu attendre les élections de 1937 pour avoir la possibilité de créer une alliance entre les sociodémocrates et les agrarmocrates. Et qui a effectivement abouti à des réformes sociales, mais beaucoup plus limitées. Quant à l'Islande, le parti social-démocrate et la gauche socialiste, comme en Suède, qui était assez fort, mais c'est quand même, pour des raisons historiques, les nationalistes qui continuent à gouverner, si vous voulez, ces États. Donc, vous le voyez, on est dans le cadre de quelque chose de particulièrement à la fois limité et fragile en même temps. Alors après, il y a eu, après 1945, les social-démocraties maintenues au pouvoir ont continué cet effort. Mais c'est un effort qui n'était pas si original, puisque partout en Europe, on a commencé à mettre en place ce qu'on a appelé les États dominants. Alors, ce qui a été quand même intéressant dans les pays du Nord entre 45 et les années 70, voire 80, pour la Finlande et l'Islande, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur un modèle universel, c'est-à-dire qu'en fait, ces États providence ne demandaient pas à chacun de faire la preuve qu'il avait besoin de beaucoup d'argent, etc. C'est-à-dire que la main a été distribuée à des couches sociales très variées, pas seulement les plus pauvres, mais également les classes moyennes. C'est surtout en Suède, d'ailleurs, que ce modèle nordique, donc est un modèle universel, qui ne demande pas de faire la preuve que pour recevoir une aide, a été mis en place plus tôt. Les grands théoriciens de ça étant les époux Myrdal, M-Y-R-D-A-S. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'État-providence s'est assis et qu'il est apparu comme un modèle social-démocrate. En réalité, vous voyez, ce n'est pas vraiment uniquement un modèle social-démocrate, c'est un modèle fondé sur l'acceptation de différents groupes sociaux. Hein, ce n'est pas seulement la social-démocratie, c'était un deal au départ. Et ce deal a perduré. Alors, pour le patronat, ce deal était intéressant parce qu'il permettait justement d'éviter les trop grands conflits sociaux. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que s'est créée l'image de pays du compromis. Mais attention, qui c'est qui a développé cette image de pays du compromis? C'est souvent en Europe occidentale, le patronat ou la social-démocratie la moins réformiste, qui a développé cette idée. Voyez-vous, vous n'êtes pas raisonnable, dans le Nord, qui font des chansons. Et les penseurs les plus à droite de la gauche française étaient toujours en admiration devant Bellevue. Je me souviens avoir souvent discuté avec des conservateurs, y compris dans le patrimoine, des vrais, de vrais conservateurs, qui trouvaient toutes les vertus au pays du Nord, justement, parce que bon, il y avait de la redistribution, puis ça ne touchait pas trop, qu'il n'y avait pas de grève, et ils adorent l'ordre, mais ils n'aiment pas les grèves. Bon, maintenant, attention, la classe ouvrière dans les pays du Nord est quand même combattue, et les syndicats sont extrêmement puissants. Et même s'ils sont inféodés aux directions social-démocrates, il faut rappeler qu'en Islande et en Finlande, le mouvement communiste est devenu très fort en 1945, mais il est très fort aussi dans le mouvement syndical, donc il y a eu toujours des conflits sociaux importants. Et même dans des pays comme la Suède, la Norvège ou le Danemark, il y a eu aussi quand même, c'est pas des pays du oui. L'image qu'on donne à l'extérieur ne doit pas être prise comme marchant autant. Alors, qu'est-ce qui met en difficulté à partir des années 80, ce modèle assez complexe? C'est tout simplement le fait d'abord que les sociétés changent. C'est-à-dire que c'est des sociétés où ce qu'on peut appeler les classes moyennes instruites, celles qui font des études, etc., même quand elles sont d'origine populaire, se développent énormément. Et ces classes moyennes trouvent quelquefois injuste qu'un ouvrier du bâtiment puisse gagner autant qu'un rattrapé du ministère. Ça indigne toujours le petit bourgeois, y compris d'ailleurs dans l'URSS post-Staline. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas considérer qu'un bûcheron puisse gagner autant qu'eux. Et ça a été déjà le premier verre dans le fruit. Le deuxième verre dans le fruit, c'est forcément cette taxation très forte. C'est-à-dire c'est des états sociaux qui reposaient sur des financements extrêmement lourds et qui naturellement supposent un effort de la part des contribuables. Donc, y compris dans le patronat, mais également dans une série de gens qui pensaient que leur statut devait être protégé de trop fort, il y a eu une forme de lassitude par rapport à cet effort fiscal. Et puis, il y a eu aussi idéologiquement, c'est très remarquable en Suède à partir des années, au tournant des années 70-80, et ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en France à l'époque de Giscard, il y a une offensive libérale très forte. Les libéraux ayant été longtemps écartés du pouvoir pouvaient se permettre d'avoir un rôle d'opposition. Alors en apparence constructive, on ne mettait pas en cause tout à fait le modèle nordique, mais en même temps le critiquait. Et puis, toute une série de penseurs libéraux ont essayé aussi de montrer progressivement, à la suite d'un certain nombre d'idéologues britanniques, que le système, y compris social-démocrate, était un système d'oppression. C'est-à-dire, était fondé sur des sociétés qui se voulaient égalitaires, où les individus ne se distinguaient pas les uns des autres. Et ils ont essayé de montrer que ce modèle nordique allait contre le mouvement le plus profond de libération des individus qui existe à la fin du XXe siècle. Et ils ont gagné idéologiquement des partisans. Et ça a été la mise en cause de ça. Et puis également, ce qui a beaucoup ébranlé le modèle social-démocrate, c'est la crise de la fin des années 80, début des années 90. Autant les crises des années 70 ont été assez faibles par rapport à nous, dans ces pays, autant celle du début des années 90 a été extrêmement ressentie, extrêmement dure. Et à ce moment-là, effectivement, c'est créé un déséquilibre entre les ressources de l'État, les possibilités de financer le modèle, etc. Et c'est là que les droites ont lancé leur offensive, une offensive un peu new look, en s'adressant beaucoup aux jeunes. Toi, jeune, tu aimes être original, tu vas quand même pas faire le tour comme ton grand-père, ta grand-mère, tous pareils, tous essayant de passer les mêmes vacances au même endroit, t'es un jeune, montre-toi et tout ça. Et ils ont énormément gagné chez les jeunes aujourd'hui dans les pays du Nord, souvent ils vont à droite, même c'est les trois droits et les trentenaires. Donc c'est c'est un peu inquiétant. Bon, ça commence à changer parce que les tout jeunes commencent à se rendre compte que les perspectives laissées par le gouvernement ne leur sont pas extrêmement favorables. Mais en fait, vous avez comme ça plusieurs générations qui ont été gagnées. Et dans cette affaire, les fonctionnaires sociaux-démocrates au pouvoir, dans les syndicats, au gouvernement, etc., ont baissé les bras. Et ils ont cherché à s'adapter au nouveau modèle néolibéral. Et l'entrée dans l'Union européenne en 1995 n'a fait qu'accélérer les choses. C'est-à-dire que, alors, bien entendu, aujourd'hui, dans ces pays, on cherche à expliquer qu'on ne veut pas tuer tout le modèle. Et c'est vrai que les droites sont quand même moins réactionnaires que chez nous. C'est-à-dire que, dès qu'ils entendent le mot État, ils ne sortent pas leur revolver. Ils n'ont envie de tuer personne. Ils considèrent qu'il doit y avoir une intervention publique. D'autre part, même la droite considère que si on doit faire des économies, par exemple sociales, d'expédier des immigrés qui viennent trop nombreux, profiter de tous ces avantages extraordinaires qu'on leur offre, surtout l'hiver, dans les pays du Nord, eh bien, tout cela ne les empêche pas de penser, par exemple, que les étudiants, il faut les aider. Comme ils ont une clientèle jeune assez nombreuse, vous voyez, on fait des étudiants, on fait des choses, on aide des familles, on fait. Donc ils ont un petit peu réorienté le modèle. Au Danemark, on a trouvé aussi cette nouvelle astuce qui semble surexciter tous les amis de la droite et de la gauche en France, la fameuse flexi-sécurité. Hein, qui fait qu'un type, effectivement, ne se trouve jamais totalement à la rue, mais peut changer 10 fois de boîte dans la même année, ce qui est vachement rassurant, hein, surtout quand les boîtes se trouvent à 40 km de chez eux. Donc, effectivement, qui ne tombe pas au chaud de nuit, hein, mais ce n'est pas un système qui aurait très idéal. Mais par contre, il y a des coupures très importantes et surtout un affaissement du rôle de l'État. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans un pays comme la Suède, il y a 5% de fonctionnaires. En France, on est entre 15 et 20%. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois moins de fonctionnaires. Dire c'est formidable, ça prouve que moins il y a un fonctionnaire, mieux on trouve. Mais la réalité des choses, c'est que si vous voulez acheter un timbre poste, vous ne pouvez plus l'acheter à la poste. Hein? Si vous voulez obtenir, il y a des coûts de plus en plus drastiques dans l'entretien des routes, dans l'entretien. Et puis c'est surtout à l'hôpital, au niveau du système de santé, qui n'a jamais été merveilleux dans le Nord, mais qui a eu des régressions incroyables. Moi j'ai vu mourir ma grand-mère dans un couloir. Pendant 3 jours, parce qu'il n'y avait pas de place. Alors j'étais avec la mémé, il se pourrait que j'habitais chez elle à ce moment-là, en train de lui tenir la main et d'avoir crevé au milieu du couloir, hein, avec des infirmières et qui me jetaient des regards honteux et désespérés. Mais vous voyez, hein, c'est pas si formidable. Hein. J'ai vu aussi ma fille opérer. De la plénicite à la place d'une certaine chute. Hein. Donc, vous voyez, faut quand même pas non plus nous présenter les choses. Alors, bon, l'un dans l'autre, les régressions, si vous voulez, ressemblent à ce qui peut se passer chez nous, mais elles sont moins graves, et surtout, ce qu'il y a, c'est que les gouvernements, même les gouvernements conservateurs d'aujourd'hui, ne sont pas des gouvernements conservateurs tout à fait assimilables. C'est-à-dire que le mécontentement est très fort, et l'extrême droite, qui n'a jamais été négligeable non plus dans ces pays, le fait percer tout à fait remarquable. Ce qui montre bien que la destruction de ce système crée des déçus. Et c'est souvent dans les couches populaires, les gens soumis au chômage, etc., que la haine de l'émigré, de l'immigré plus exactement, la haine, si vous voulez, de celui qui est différent, la volonté aussi, vous voyez, de s'en prendre aux élites en général, auxquelles ils assimilent d'ailleurs les fonctionnaires sociaux-démocrates plus ou moins en haut de la main. En fait, aujourd'hui, les social-démocraties dans le Nord sont en pleine déroute. Aux dernières élections présidentielles, le candidat social-démocrate, ancien Premier ministre, il connaît jusque dans les années 2000, il a fait 7%. Donc, la social-démocratie, c'est aussi en partie en train de le tuer. Le seul pays où ça résiste, enfin les deux pays où ça résiste pas, c'est l'Islande. Et vous avez l'Islandais pas commode avec les financiers et les capitalistes, surtout après la crise de 2008 au Maroc. fraude plus ou moins redistribuée. Ce qui fait que la gauche est moins perdition. Mais vous avez vu que l'extrême droite qui existe aussi, hein, puisqu'elle massacre quelquefois les jeunes sociodémocrates en congrès, par dizaines. Donc, il ne faut pas vous faire d'illusions sur ces pays, et ce sera ma conclusion. Cela dit, le modèle nordique, tel qu'on le présentait dans les années 50-60, c'était tout à fait humain, et ce n'est pas la peine de lancer l'orthodoxie marxiste à haut sur le modèle nordique, ça ne sert à rien. Simplement, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que ce modèle nordique est un processus qui est beaucoup plus complexe que les idéologues qui cherchent à nous entourer ne veulent bien dire aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu de temps. On va parler.